France Musique.
Vous allez l'adorer.
Vous allez l'adorer.
Bonjour, un joli réveil avec France Musique. De quoi se sentir plus léger, plus joyeux peut-être. En tout cas, vous faire lever du bon pied. Dans quelques secondes, Musique Matin avec Clément Rochefort. C'est l'été sur France Musique. Musique Matin, le 7h39 de Clément Rochefort.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Musique pour une troisième semaine de Musique Matin. Ravi de vous accompagner de nouveau au réveil jusqu'à 9h avec cette semaine encore de beaux rendez-vous et des invités qu'on a hâte de recevoir. Et toujours ce parfum de vacances qui flotte sur les ondes. En plus, ça y est, il fait beau, enfin! Alors aujourd'hui, on partira d'abord en Bretagne, suivre un violoncelliste en voile avec Martin Delacoux. C'est notre reportage de 7h40 à 7h50 dans le jeu de l'été. A gagné le disque Chanson d'amour de la soprano Sabine Devielle et du pianiste Alexandre Tarot. À 8h, le journal de Marie-Hélène Duvigneau. À 8h10, le Tour de France des festivals qui nous entraînera du côté de Nice avec la pianiste Marie-Joseph Jude. À 8h25, l'été des frères Jacques. Et à 8h30, deux invités aujourd'hui. Bruno Messina, directeur du festival Messian au Pays de la Meije, et le compositeur Philippe Manoury. Alors vous le savez, France Musique est encore en direct du festival de Radio France Occitanie-Montpellier tous les soir de la semaine, mais il y a aussi tous les concerts qui seront enregistrés et qui seront diffusés un peu plus tard, dans le courant du mois d'août, comme par exemple le concert que le jeune et génialissime Quatuor Tchalik a donné en quintette avec leur frère Dania Tchalik au piano, autour de Saint-Saëns et d'Eugène Isaïe, les Tchalik qui ont livré l'année dernière l'un des plus beaux disques de musique de chambre consacré à Reinaldo Hahn, et dont voici le final du quintette en fa dièse mineur, si frais, si délicieusement suranné, baigné d'une lumière de fin de journée estivale, à l'heure où les enfants goûtent après s'être bien dégourdis dans le jardin. Allez, bon réveil et bienvenue à tous sur France Musique.
Thank you.
J'adore cette musique qui est fraîche comme un matin d'été. C'était le final du quintet en fa dièse mineur de Reynald Doane, interprété par la fratrie Tchalik, le quatuor Tchalik et Dania Tchalik au piano. Il est 7h39.
C'est l'été sur France Musique.
Et c'est aussi l'heure des news. Le metteur en scène d'opéra britannique Graham Vick est mort vendredi à Londres d'une forme grave du Covid-19 à l'âge de 67 ans. Né dans la région de Liverpool, il avait fondé la Birmingham Opera Company en 1987 et s'était vite imposé sur les scènes internationales, collaborant avec de grands chefs et de grands compositeurs contemporains. Il a aussi assuré des fonctions de direction à l'Opéra d'Écosse et au Festival de Glyndebourne. Graham Vick a été de nombreuses fois primé pour son travail. Parmi ses productions marquantes resteront notamment une Macbeth à la Scala en 1997, dirigée par Riccardo Muti, Outis de Berio en 1996, ou La ville morte de Korngold en 2019, sans oublier un Don Carlo en 2010 à l'Opéra de Paris, La Bohème en 2018 à Bologne, Parsifal à Palerme l'année dernière. Il devait d'ailleurs monter une nouvelle production du Bal Masqué au Festival Verdi en septembre prochain. Sir Graham Vick avait été anobli par la reine et fait chevalier des arts et des lettres en France. On annonçait vendredi dernier la disparition de l'orchestre de chambre grec Harmonia Athénéa. Alors, en réalité, il s'agissait de la dissolution de la structure qui était responsable d'une partie de la gestion financière de l'ensemble, qui devait être aussitôt refondée après liquidation pour dette de la structure qui hébergeait l'orchestre administrativement. Selon les précisions du magazine Diapason, le chef Georges Petrou a expliqué que ce processus administratif n'affecterait en rien les activités de l'orchestre, qui devrait même assurer une représentation d'Orlando Furioso à Paris le 14 octobre prochain. En voilà une nouvelle qu'elle est bonne. Suite aux intempéries qui ont durement frappé l'Allemagne en fin de semaine dernière, la liste des dégâts s'allonge, avec notamment une inondation de l'opéra du Wuppertal. Plus d'un mètre et demi d'eau s'est infiltré dans le bâtiment qui espère pouvoir ouvrir ses portes à la rentrée. Et pour finir, direction la Bretagne, où Martin Delacoux a rencontré pour nous de jeunes musiciens troubadours qui naviguent à la voile de port en port. C'est le projet Violoncelle en voile. Tout l'été, ils transportent deux violoncelles et deux viols de gambe dans leur bateau de 9 mètres de long. Ils ont joué de la musique baroque sur la presqu'île de Quiberon ou à Sainte-Marie, au sud de Quimper. Martin Delacoux les a rejoints à Lorient avant de monter sur leur voilier pour l'île de Groix.
Le duo de violoncellistes a abandonné la vareuse et les chaussures adhérentes pour un ensemble chemise et chaussures cirées. Adrien Vieux et Kevin Bourda ont navigué aujourd'hui 1h30 à la voile avant d'arriver sur l'île de Groix. Se déplacer de la sorte rentre pour eux en résonance avec la musique qu'ils jouent, comme l'explique Adrien Vieux.
C'est deux mondes qui sont très différents, mais qui finalement coexistent bien. La musique, c'est quelque chose de riche, la voile, c'est quelque chose de riche. On joue sur des instruments anciens, j'ai un voilier, non pas un bateau à moteur, et finalement, il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Et comme je fais les deux, je me suis dit, pourquoi pas les réunir tout simplement et en faire quelque chose de concret.
Au programme, ce soir, dans la petite chapelle de Kelwitt, dans la pointe nord de l'île, des sonates d'Antonio Vivaldi, de Jean-Baptiste Barrière, ou un mouvement lent de Luigi Boccherini. Les deux violoncelles, tenues entre les jambes, portent les marques du temps, ils ont plus de 200 ans. Les cordes, quant à elles, sont en boyau. Les deux musiciens tentent en effet de se rapprocher le plus possible du son de l'époque. Kevin Bourda.
On essaye de régler les instruments au niveau, d'abord de la structure, mais du choix des cordes, du choix des archets, en fonction des témoignages qu'on a de l'époque, de laquelle datent les compositions qu'on joue. Et puis après, au niveau du style, comme la partition, c'est extrêmement lacunaire comme information, on essaye de compléter avec des traités, avec des méthodes. Ça, c'est la démarche qu'on appelle très généralement interprétation historique. Après, nous, on va un peu plus loin avec la barque de Caron, parce qu'en fait, le troisième membre qui est luthiste, il est aussi compositeur. Donc en fait, il écrit la musique contemporaine, puisque c'est notre contemporain, mais il l'écrit pour nos instruments et avec des références au style de la musique française du XVIIIe siècle. Donc ça, c'est encore une autre démarche.
Ce projet est né pendant leurs études. Ils étaient les deux seuls de leur promotion à être intéressés par la musique baroque, les deux seuls aussi à être mordus de navigation. Violoncelle en voile était donc la conclusion logique, surtout pour Adrien Vieux, le plus marin des deux.
comme je suis très souvent en Bretagne et très souvent sur mon bateau, en étant instrumentiste, je peux pas partir des mois sans mon violoncelle. Donc j'ai embarqué mon violoncelle et c'est en travaillant dans la cabine ou dans le cockpit en fait que les gens m'ont entendu en disant tiens, il y a un concert, il se passe quelque chose. Je me suis dit mais il y a peut-être un truc à faire en fait. Donc c'est parti de ça à la base.
Le premier bateau acheté était un petit peu petit pour les instruments et les hommes, mais Adrien Viau a ensuite acquis Juliette, un bateau de 9 mètres, et les instruments ont trouvé leur place dans la cabine avant.
Ah oui, donc il n'y a pas beaucoup de place pour vous.
Ah bah non, du coup on dort pas là, hein. C'est clair, il faut choisir son confort ou celui des instruments, quoi. Il y avait encore un luth, il y a encore 4 jours, qui était là.
Les instruments sont empilés, certes, mais on a des boîtes rigides. D'autre part, j'ai des extracteurs qui tournent en continu au-dessus de la cabine des instruments et qui permettent justement d'extraire l'humidité. Donc, très souvent, on a plus d'humidité dans les églises dans lesquelles on va jouer, dans les lieux de concert, que dans le bateau.
Les instruments sont donc mieux lotis que les marins, pas épargnés par les embruns. L'équipage repart ensuite de nuit, à peine le concert fini. Une escale au port de Lorient, dans le Morbihan, puis départ au petit matin pour 9 heures de navigation contre le vent, direction Sainte-Marine, dans le Finistère.
Un reportage signé Martin Delacoux, un beau festival, un beau projet, plein de poésie, ce violoncelle en voile, violoncelle et Bretagne. Eh bien moi je pense immédiatement au compositeur breton Guy Ropartz qui a livré des pages de musique superbes, tout imprégnées de l'air vivifiant du grand large, comme dans le final de sa sonate pour violoncelle en la mineur, bourrée de remous, d'écume et de vent puissant.
Thank you.
Le final de la deuxième sonate pour violoncelle en la mineur de Guy Ropartz, interprétée par Louis Rode au violoncelle avec Gwendal Giglet au piano. Merci d'être avec nous ce matin. Il est 7h50. Est-ce que vous êtes joueur ? Eh bien, tant mieux si vous aimez jouer, et surtout tant mieux si vous aimez l'amour, parce qu'on en a à revendre, ou plutôt à vous en faire gagner. Car ce matin en jeu, c'est l'album Chansons d'amour de la soprano Sabine de Vielle, en duo avec le pianiste Alexandre Tarot. Un album entièrement consacré à la mélodie française, avec un florilège de pièces, de Fauré, de Ravel, de Debussy, de Poulenc. Quatre compositeurs qui ont marqué la carrière de ces deux artistes, dont le point commun est vraiment la clarté limpide du timbre, de l'expression. Vous allez voir, ce disque est un petit bijou qui scintille avec un raffinement suprême. Pour le gagner, il vous suffit de répondre correctement à la question qui va suivre. Vous nous écrivez, comme chaque jour, sur l'onglet « Contactez-nous » sur la page de l'émission Musique Matin sur francemusique.fr. Vous n'oubliez pas de nous indiquer vos coordonnées complètes. Alors voici la question. Gabriel Fauré était aussi organiste. De laquelle de ces trois églises parisiennes, Fauré n'a jamais été l'organiste ? L'église Notre-Dame de Lorette, l'église de la Madeleine ou l'église Saint-Sulpice ? De laquelle de ces trois églises Gabriel Fauré n'a jamais été l'organiste? Est-ce qu'il s'agit de Notre-Dame de Lorette, de l'église de la Madeleine ou de l'église Saint-Sulpice? C'est à vous de jouer, vous avez jusqu'à 8h50.
J'aime tes yeux, j'aime ton front, oh ma rebelle, oh ma farouche. J'aime tes yeux, j'aime ta bouche, oh mes baisers s'épuiseront. J'aime l'étrange grâce de tout ce que tu dis. Oh, ma rebelle, oh, mon cher ange, mon enfer et mon paradis. J'aime tes yeux, j'aime ton front, oh, ma rebelle, oh, ma farouche. J'aime tes yeux, j'aime ta bouche, oh, mes baisers s'épuiseront. Fait belle, de tes pieds jusqu'à tes cheveux, en toi vers qui monte mes voeux, oh ma farouche en belle belle. J'aime tes yeux, j'aime ton front, oh ma rebelle, oh ma farouche. J'aime tes yeux, j'aime ta bouche, oh mes baisers s'épuiseront, oh mes baisers s'épuiseront.
Décidément, ça marche à chaque fois. Moi, ces harmonies foréennes, ça me file des frissons, surtout avec la voix de Sabine Devielle, Alexandre Tarot au piano. C'est le disque qui est en jeu ce matin. Je vous rappelle brièvement la question. Vous avez le choix entre trois églises parisiennes. Il faut trouver celle dans laquelle Fauré n'a jamais travaillé, n'a jamais été organiste. Notre-Dame de Lorette, l'église de la Madeleine ou l'église Saint-Sulpice. Vous avez jusqu'à 8h50 pour participer. Sachez d'ailleurs que Alexandre Tarot sera en concert au festival Debussy. Ce sera le 22 juillet prochain, dans 3 jours. Petit message, tiens, à ceux à qui la musique d'aujourd'hui fait peur. Cet été, sachez que tous les samedis à 12h30, c'est le retour de Versus sur France Musique, l'émission de Thomas Vergracht, l'émission qui fait se rencontrer musique contemporaine et musique du passé, du classique, du moderne, du contemporain, de l'ancien, du nouveau. Bref, du punchy, de l'acidulé, du percutant, comme le dit Thomas. Le but, assumé, aiguiser l'oreille et donner la gourmandise de la création. Parmi les grands duels anachroniques de l'été, Brice Dessner versus Béla Bartok, Camille Pépin versus Igor Stravinsky, Meredith Monk versus Josquin Després, Benoît Menute versus Dimitri Shostakovich et bien d'autres, Carole Beffa versus Lily Boulanger ou encore Julia Wolf versus Beethoven versus, une émission à podcaster et à réécouter sur francemusique.fr et sur l'application Radio France.
4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1.
Musique pleine d'humour, c'était Downfall de Meredith Monk avec son ensemble vocal et le Bangen Can All Star. Meredith Monk qui sera donc parmi les compositrices traitées cet été par l'émission Versus de Thomas Vergracht, une émission à retrouver tous les samedis et c'est à 12h30.
France Musique vous accompagne tout l'été à 9h et 14h. Partez en balade à travers une programmation musicale riche, surprenante. Elle vous emmène de découverte en découverte. Laissez-vous aller, rêvez, guidez au rythme de Été Classique. Le matin et l'après-midi, à retrouver en podcast sur l'application Radio France.
Se vacciner contre la Covid-19, c'est se protéger. Protéger les plus fragiles et pouvoir bientôt tous se retrouver. Qui peut se faire vacciner aujourd'hui? Toutes les personnes de 12 ans et plus. Alors n'attendez plus. Faites-vous vacciner. Vous pouvez vous renseigner et prendre rendez-vous sur santé.fr ou auprès d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'Assurance Maladie.
France Musique.
Merci d'être avec nous ce matin. Bon réveil à ceux qui ouvrent les yeux à l'instant. Il est 8h. Et c'est l'heure du journal de Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Clément, bonjour à tous. Des défenseurs des droits de l'homme, des avocats ou encore des journalistes surveillés à travers le monde via leur téléphone. C'est ce que révèle depuis hier une enquête coordonnée par Forbidden Stories et dont la cellule d'investigation de Radio France est partenaire. Le Maroc, en particulier, ferait un usage massif de ce logiciel espion Pegasus de la société israélienne NSO Group. S'il est introduit dans un smartphone, il permet d'en récupérer les messages, les photos, les contacts et même d'écouter et les appels de son propre 10 000 numéros ont été sélectionnés comme potentielles cibles par Rabat, dont environ 1000 numéros français et parmi eux, beaucoup de journalistes, Élodie Guéguin.
Sur la liste à laquelle nous avons eu accès figurent les numéros de journalistes au profil très varié. Citons le fondateur de Mediapart, Edoué Plenel, l'ancienne chroniqueuse judiciaire du Canard Enchaîné, Dominique Simoneau, ou encore le polémiste Éric Zemmour, et bien d'autres travaillant pour l'Humanité, France Télévisions, Le Monde ou RFI. Et dans une apparente frénésie, le Maroc a même sélectionné des numéros de téléphone fixes de journalistes à Radio France, alors que la technologie ne fonctionne qu'avec des smartphones. Alors soyons clairs, ça ne veut pas dire que les téléphones de tous ces journalistes ont été infectés par le logiciel Pegasus, censé, on le rappelle, servir à lutter contre le terrorisme et la criminalité. Mais grâce à l'appui technique d'Amnesty International, nous pouvons confirmer que plusieurs journalistes et patrons de presse qui ont accepté de nous confier leur téléphone pour analyse ont bel et bien été espionnés, comme Edoué Plenel, Dominique Simoneau ou encore le directeur de la radio TSF Jazz.
Et Dominique Simoneau, aujourd'hui contrôleur général des lieux de privation de liberté, ou encore l'avocat Joseph Briam, également ciblés, vont déposer une plainte. Au moins 191 morts en Allemagne et en Belgique, avec de nombreuses personnes encore portées disparues. C'est le dernier bilan des inondations dévastatrices qui ont frappé l'Europe la semaine dernière. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel s'est rendue hier dans un village près de Bonn, partiellement détruit par une rivière en crue. Parlant de dévastation surréaliste, elle a appelé à faire un très grand effort pour accélérer les politiques climatiques. Notre page Covid à présent, avec en France la pression de l'exécutif sur les non-vaccinés au cœur d'un projet de loi présenté en Conseil des ministres ce matin. Le texte vient traduire les annonces d'Emmanuel Macron de la semaine dernière, notamment l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension du pass sanitaire. Des mesures qui ne font pas l'unanimité, les opposants étaient encore dans la rue ce week-end et ils n'hésitent pas à faire des comparaisons parfois plus que douteuses, Rosalie Lafarge.
Isabelle Balkany à droite compare le pass sanitaire à l'étoile jaune avant de s'excuser. L'écologie Michel Rivasi fait le parallèle avec l'apartheid, puis reconnaît une maladresse. Florian Philippot, ex-FN, dénonce la tyrannie et fait appel à la résistance.
Ce qui est très grave, c'est quand même que derrière ces mots, il y a une histoire.
L'éditeur et historien Jean-Luc Barré.
Il y a presque une insulte pour moi à se référer à ces drames-là, il y a une insulte à la mémoire des morts. Donc on a un espèce d'abus de vocabulaire maintenant, et d'abus d'histoire, et d'abus de mémoire, qui fait que on perd la mesure des choses.
Et pour le spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, Olivier Vieviorca, ces excès viennent notamment d'une évolution.
On a, me semble-t-il, un personnel politique qui est de plus en plus éloigné de l'histoire. À l'époque du général de Gaulle, ce sont des individus qui ont été extrêmement marqués par la Seconde Guerre mondiale et donc qui avaient un certain sens de l'histoire. L'autre épreuve a été la guerre d'Algérie, mais depuis, on a un personnel politique qui n'a jamais été confronté à de grandes épreuves. Ce premier élément induit une forme de relativisme, malheureusement.
Mais cela reste tout de même très minoritaire dans les discours, souligne le professeur en histoire contemporaine Patrick Garcia.
C'est quand même beaucoup le fait de petits réseaux. Et on sait bien que dans les petits réseaux, plus on monte en radicalité, je mets ça entre guillemets, plus on est visible, plus on est capable d'aimanter. La question du référent n'existe même plus. Il faut trouver le terme qui choque sans aucun autre type de considération.
Des comportements encouragés, entre autres, selon ces trois historiens, par l'instantanéité presque exigée par les réseaux sociaux et une partie des médias.
Selon les chiffres publiés hier par Santé publique France, 12 532 cas ont été détectés en 24 heures, le niveau le plus élevé pour un dimanche depuis la mi-mai. En Grande-Bretagne, c'est aujourd'hui ce que le Premier ministre a surnommé le jour de liberté. En dépit d'une nouvelle flambée des contaminations et ignorant les appels à revenir sur sa décision, Boris Johnson, actuellement cas contact et à l'isolement, a confirmé la levée de quasiment toutes les restrictions restantes en Angleterre, se bornant à appeler ses compatriotes à faire preuve de prudence. Le temps aujourd'hui estival, quelques risques d'orages tout de même cet après-midi sur les reliefs et dans les Hauts-de-France. Les températures 15 à 18 degrés ce matin, 21 à 23 près de la Méditerranée, 25 à 35 cet après-midi. France Musique 8h05 et c'est à vous mon cher Clément.
Merci Marie-Hélène Duvigneau. Vous savez, pendant votre journal, j'ai fouillé votre téléphone et vous n'êtes pas sur écoute. Vous n'êtes pas sur Pegasus.
Voilà qui me rassure.
Voilà, je vous rassure. Le prochain journal à midi et puis on vous retrouve demain à 8h sur France Musique. Quant à nous, on continue notre petit bout de chemin jusqu'à 9h avec un passage par Nice avec la pianiste Marie-Joseph Jude dans quelques instants à 8h10. À 8h25, l'été des Frères Jacques comme tous les jours. Et à 8h30, dont deux invités, Bruno Messina, directeur du festival Messian au Pays de la Meije, et Philippe Manoury, l'un des deux compositeurs invités de cette édition. Mais si vous êtes du côté de Biarritz en juillet, je vous indique que vous pouvez vous rendre au Biarritz Piano Festival. C'est à partir du jeudi 22 juillet et jusqu'au 13 août, le pianiste Thomas Valverde y invite ses amis pianistes à venir faire sonner les murs de la salle de la Gare du Midi de Biarritz. Parmi les invités, Thomas Enko et la marimbiste Vasilena Serafimova, le génial pianiste polonais Rafael Bleracz qui vient pour la première fois au festival. Il y aura aussi les jeunes qui explosent comme Alexandre Kantorov avec la violoniste Lia Petrova et le violoncelliste Aurélien Pascal, sans oublier Kotaro Fukuma, Vadim Rolodenko, le patron du festival lui-même, Thomas Valverde avec son nouvel album Electro, ou encore Celia Onetto Ben Saïd. Tous les renseignements sont sur le site du festival www.biarritzpianofestival, c'est en un seul mot.com. C'est un de nos grands pianistes et c'est l'un des invités du Biarritz Piano Festival dans quelques jours, Vadim Kolodenko, qui interprétait ici le scherzo de la sonate numéro 1 en sol majeur, opus 37 de Tchaïkovski.
C'est l'été sur France Musique. Musique Matin, le 7h39 de Clément Rochefort.
Merci d'être avec nous. Il est 8h09. Merci d'avoir choisi France Musique pour votre petit déjeuner. Tout de suite, c'est l'heure de monter sur notre vélo. C'est le Tour de France des festivals. Et ce matin, nous prenons la direction de Nice, le festival, le Nice Classic Live. Et pour en parler, nous sommes avec sa directrice artistique, la pianiste Marie-Joseph Jude. Bonjour Marie-Joseph.
Bonjour Clément.
Très heureux de vous entendre au téléphone ce matin. Le festival commence demain, le 20 juillet, et se tient jusqu'au 15 août. D'abord, j'aimerais que vous nous disiez un mot, Marie-Joseph Jude, du lieu magique dans lequel se déroulent les concerts, des jardins un peu particuliers à Nice.
Oui, les jardins des arènes de Cimier, que peut-être certains se souviennent parce que c'était l'endroit où se déroulait la grande parade du jazz. Moi, je me souviens de ça quand j'étais enfant. C'était un grand événement estival. Ce sont des jardins donc qui entourent le musée Matisse, qui sont assez géniaux et dans lesquels on s'est installé l'année dernière pour pouvoir respecter les distances parce que c'est très vaste, il y a beaucoup d'espace. On a une vue absolument magnifique et on est sous les étoiles. Donc c'est vrai que c'est un lieu qui se prête et qui nous inspire, nous autres artistes, énormément. Donc voilà.
Donc on peut aller se baigner la journée, puis le soir on remonte quelques escaliers pour aller sur les jardins, écouter les concerts du festival. Voilà.
Oui, exactement.
Alors, quels sont les temps forts, les grands invités de cette édition 2021 du festival ?
Alors, effectivement, il y en a beaucoup. Demain soir, déjà, la soirée d'ouverture est assez particulière puisque j'ai réuni autour de moi 7 autres pianistes. Donc, on va être 8 autour de 2 pianos avec des hommages à Stravinsky, le Sacre du Printemps, beaucoup de Piazzolla, des tangos, des transcriptions et puis du Saint-Saëns également puisque, bon, ces trois compositeurs sont célébrés cette année. Mais, par exemple, après-demain, nous aurons une soirée avec Air Désert et Anne Gastinel, qui me fait le plaisir de venir pour la première année à l'Académie d'été. L'Orchestre de Nice jouera dimanche sous la direction de Laurent Petit-Girard et Ragy Lapape, qui est aussi un enfant du pays comme moi. Nathalie Dessé viendra avec Claude Cassard le 28 juillet. Thomas Enco, j'ai entendu qu'il allait à Biarritz, mais il voyage beaucoup cet été, je crois.
Il est partout, il est partout, ce Thomas Enco.
Voilà, c'est ça. Il viendra le 9 août. Donc, il y a énormément de événements et j'invite évidemment tout le monde à aller voir sur le site pour, je peux pas tout citer, mais j'ai travaillé beaucoup sur cette édition pour qu'elle soit la plus festive et la plus joyeuse possible.
Et puis vous faites intervenir aussi, Marie-Joseph Jude, les forces musicales niçoises de la région, hein, avec l'Orchestre du Conservatoire aussi, l'Orchestre Philharmonique de Nice.
Oui. Bah, de toute façon, Nice a toujours été un vivier de talents. C'est vrai. Enfin, moi, depuis ma génération et bien avant, il y a énormément de musiciens niçois un peu partout. On les reconnaît pas toujours, mais nous sommes un peu partout. Et c'est vrai que l'orchestre du conservatoire, ça me tient beaucoup à cœur puisque l'académie d'été en fait s'installe dans les lieux dans le conservatoire de Nice, qui est un conservatoire absolument magnifique, qui a une dizaine d'années maintenant et qui est vraiment rare d'espace et de richesse instrumentale. Et donc c'est très important, le directeur Thierry Muller nous reçoit. Je trouve ça important qu'il y ait un trait d'union entre l'Académie d'été, donc qui s'installe à partir d'aujourd'hui pour 3 semaines et qui reçoit des étudiants de partout. Alors évidemment,
ça c'est la nouveauté hein, de cette année.
Oui, alors
l'accent sur les jeunes artistes.
Oui, bah ça me semblait. Alors c'était déjà une idée qui me trottait dans la tête depuis que j'ai repris l'académie, parce que je trouve que dans l'apprentissage, dans la transmission, le passage sur scène est vraiment quelque chose d'irremplaçable en fait. Même n'importe quel professeur ne peut pas apprendre autant à un jeune que ce qu'il va apprendre lui en fait en confrontation au public. Donc ça m'est devenu impératif cette année puisque c'est vrai que étant professeur, j'ai bien vu que mes jeunes souffraient beaucoup en fait de ne pas monter sur scène, de ne pas avoir la possibilité de rencontrer le public. Et donc oui, alors cette année effectivement, je leur ouvre une scène tremplin. J'ai appelé ça comme ça, mais en réalité, ce sont des artistes qui sont déjà vraiment à l'aube de leur carrière. Et voilà, c'est donc important pour moi.
Donc comment ça fonctionne ? Alors c'est-à-dire que donc l'académie, ils ont des cours de musique, des masterclass, et qui se soldent, on va dire, par un concert.
Oui, alors soit c'est ça, soit effectivement ils font l'académie comme par exemple Yona Majewski qui est dans ma classe au conservatoire et qui va venir, qui fait le concours Clara Askill et donc ça lui permet en fait de roder son concours international en live, je dirais. Ou alors ce sont des jeunes qui sont venus à l'académie, que nous avons repérés et que nous invitons maintenant en vrai artiste invité. Voilà, donc il y a les deux formats.
le Nice Classic Live, un festival qui commence demain, donc le 20 juillet et jusqu'au 15 août, qui fait la part belle aux jeunes musiciens autour des plus anciens et des plus confirmés, on va dire, avec une belle programmation. Oui. Tout est à retrouver sur le site du festival. De toute façon, vous n'allez pas me contredire, Marie-Joseph Jude, à Nice, oui. On vous raconte pas de salade.
Oui, très bien. Clément.
Allez, oui, bah, c'est pour 8h15, elle était pas mal. Bon, je vous souhaite un très bon festival, Marie-Joseph Jude. Et puis on va se quitter avec merci, vous au piano. C'est un extrait d'un de vos derniers disques avec la flûtiste Raquel Magalhaes. Un disque avec notamment une La Belle Sonate de Claude Debussy. Bon festival, Marie-Joseph Jude.
Merci beaucoup, Clément.
Thank you.
Le final est très animé de la sonate en sol mineur de Claude Debussy, arrangée pour flûte et piano, avec Raquel Magalhães à la flûte et Marie-Joseph Jude au piano. Il est 8h20, merci d'avoir choisi France Musique ce matin. Il est temps de faire le point sur les concerts à l'affiche du jour. Trois nouveaux concerts à 16h. C'est Christophe Dillis qui vous accompagne avec une émission autour des quatuors français. Il y aura notamment du Beethoven avec le quatuor Eben à 20h. Vous retrouverez François-Xavier Chemchak en direct de l'Opéra Berlioz au Corum de Montpellier dans le cadre du Festival de Radio France Occitanie-Montpellier pour un programme 500 donné par l'Orchestre Les Siècles et François-Xavier Roth, avec aussi la violoncelliste Sol Gabetta. Et puis à 22h, toujours à Montpellier, toujours en direct mais de l'amphithéâtre d'eau au Domaine d'eau à quelques kilomètres de Montpellier, vous retrouverez Alex Dutille pour les soirées jazz avec ce soir Romain Pilon Copper, Romain Pilon à la guitare, Adrien Sanchez au sax, Leonardo Montana au piano, Tony Pellman au clavier et Fred Pasqua à la batterie.
Thank you.
Un extrait du troisième acte du Timbre d'argent de Camille Saint-Saëns. C'était l'air L'humble papillon de nuit avec les voix de Jody DeVos et de Yu Chao, le Chœur Accentus et l'ensemble Les Siècles de François-Xavier Roth. Les Siècles qui sont donc en concert avec Sol Gabetta ce soir au Festival de Radio France Occitanie Montpellier. Un concert à suivre en direct sur France Musique à 20h avec François-Xavier Roth. Merci d'être avec nous ce matin, il est 8h25.
C'est l'été sur France Musique.
Et c'est l'heure de retrouver nos chers frères Jacques.
Et ben alors, qu'est-ce que c'est ?
Ce que c'est beau, la photographie, les souvenirs sur papier glacé électrise.
Alors ce matin, dans l'été des frères Jacques, je voudrais vous faire découvrir une autre facette des frères Jacques, une facette peut-être plus poétique. Les frères Jacques ont en effet beaucoup chanté, les grands maîtres, les grands poètes du XXe siècle comme Prévert, mais ils ont aussi mis en musique une grande partie des exercices de style de Raymond Queneau, c'est un peu moins connu. C'est sans doute le recueil le plus célèbre de cet écrivain oulipien qui s'amuse à composer 99 variations stylistiques d'une histoire toute bête et sans queue ni tête, l'histoire d'une rencontre dans un bus d'un jeune homme au long cou coiffé d'un chapeau orné d'une tresse tenant lieu de ruban, quelques mots assez vifs avec un autre voyageur, puis va s'asseoir à une autre place. Plus tard, de nouveau rencontre avec le jeune homme, cour de Rome, devant la gare Saint-Lazare, en train de discuter avec un ami qui lui conseille d'ajuster un bouton de son pardessus. Voilà l'histoire. Tous les styles y passent, onomatopées, gastronomiques, interjections, alexandrins, syncope. Le 21 octobre 1950, avec la compagnie d'Yves Robert, les frères Jacques créent une adaptation des exercices de style, pour laquelle ils chantent quatre chansons sur des musique de leur pianiste Pierre Philippe. Parmi ces quatre chansons, Aude, qui se moque des rimes du style épique, Aude, les frères Jacques.
Dans l'autobus, l'autobus est son,
l'autobus on,
qui dans les rues,
qui dans les ronds,
va son chemin, à petit bond,
près de Monceau,
par un jour chaud, un grand gamin, au cou trop long,
porte un chapeau,
dans l'autobus,
sur le chapeau,
y a une tresse,
dans l'autobus,
il part de la suce,
y a de la presse,
il y a du prompt,
il grand gamin,
au cou trop long,
ira la brun,
contre un lapsus,
dans l'autobus,
mets le lapon,
pas comme du saint,
montre ses dents,
dans l'autobus,
et le grand gamin,
au cou trop long, va mettre ses fesses,
pas mettre son fond,
dans le busson,
sur la banquette
pour les bons cons,
sur la banquette pour les bons cons,
moi le poète auquel pompon.
Un peu plus tôt,
à Saint-Lazon,
qui est une gare pour les bongons,
j'en vis le gamin au cou trop long,
et son pardingue m'en est pardon, gars,
un copain,
pour un bouton,
près de l'autobus.
Si cette histoire vous intéresse,
vous interrompt,
n'ayez de son,
avant qu'un jour,
sur un busson,
vous ne voyez
les yeux tout ronds,
le grand gamin au cou trop long,
et son chapeau,
et son boutus,
et son bouton,
dans l'autobus,
Aude par les frères Jacques, une chanson de Raymond Queneau, du coup, sur la musique de Pierre Philippe. Vous écoutez France Musique, il est presque 8h30.
C'est l'été sur France Musique.
Et il est temps d'accueillir nos invités du jour, Bruno Messina, directeur du festival Messian au Pays de la Meije, un festival qui commence le 23 juillet et qui court jusqu'au 1er août, 23e édition du festival. Un festival qui, cette année, a deux compositeurs en résidence quasiment, dont Philippe Manoury, qui est avec nous aussi ce matin en ligne. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Et bonjour Bruno.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin. Je ne sais pas si on peut aller à la Meije en autobus, parce que ça grimpe quand même. Hein.
Oui, mais on peut y aller aussi en autobus, oui, absolument.
Alors première question Bruno Messina, est-ce que le festival Messian au Pays de la Meije, c'est un festival autour de Messian ou autour de la création ?
C'est un festival autour de la création parce que c'est un festival autour de Messiaen. Voilà.
Bien, bonne réponse. Alors, il y a une thématique cette année, le temps de la nature. Je trouvais que c'était un titre très lucrétien, on pourrait dire, De Natura Temporis.
Oui, il y a ça. C'est aussi Saint-Augustin, c'est les références à Messiaen. En fait, c'est ce texte magnifique sur la nature du temps. Et je trouvais qu'il était beau de le mettre en miroir dans un lieu comme la Mège, la Grave. Il y a ce glacier qui nous interroge aujourd'hui, au présent, qui interroge l'avenir, et construire une musique d'aujourd'hui, défendre une musique d'aujourd'hui sans interroger l'avenir, ce serait sans doute ne pas penser assez loin. Voilà, donc tout appelle à ça, tout aspire à ça dans ce lieu.
Et puis presque, je pense aussi moi à la valeur presque matérielle du temps. Et là, je me tourne vers Philippe Manoury. Le temps, c'est une donnée essentielle, sinon peut-être même l'essence même de la musique, non, quand on compose.
Ah ben oui, c'est vraiment à la base de tout. C'est à la base de tout parce que je vais reprendre une phrase de Messiaen qui est assez belle. Il disait que la musique, c'est du temps coloré.
Ah oui, ça c'est absolument magnifique. Bah, coloré, oui, avec Messiaen, de toute façon, on avait toujours cette idée de couleur. Ça, c'est une de ses caractéristiques, hein, ces accords, ces couleurs particulières qu'on trouve que chez lui d'ailleurs, hein. Bruno Messiaen.
Oui, qu'on trouve. Alors c'est vrai qu'il a un langage tout à fait singulier et reconnaissable immédiatement. Ça, c'est ce style tout à fait fort, singulier. C'est vrai qu'il interroge le temps. Il l'interroge à travers la musique, à travers le rythme. Hein. Il a aussi été un théoricien de ces questions-là, et en allant chercher aussi dans d'autres cultures, dans d'autres traditions, en Inde, au Japon. Et puis il l'interroge aussi à travers sa foi. Hein. C'est quelqu'un qui pose la question. Voilà, de la fin du temps, d'une immortalité, de quelque chose qui serait après ce présent.
De l'éternité, d'une certaine manière. Redites-nous en quelques mots, Bruno Messiaen, les lieux où se déroule le concert. Vous avez évoqué très rapidement l'histoire d'un glacier.
Oui, alors il y a plusieurs lieux.
Il faut des crampons et des piolets pour aller au concert.
Il faut prendre le téléphérique, mais on peut y aller à pied, hein, si on a de bonnes jambes. C'est à 2400 mètres. Il y a plusieurs lieux. Il y a l'église de la Grave, qui est au cœur du village, tout en haut du village, qui est magnifique, hein, qui est vraiment très très saisissante, qui a une acoustique merveilleuse. C'est une petite église romane de montagne avec une magnifique acoustique. Après, il y a d'autres lieux dans la vallée de Serre-Chevalier, de l'autre côté du col du Lautaret. Et puis on investit tous les lieux possibles. Il y a l'Alpe d'Huez aussi, où il y a un orgue moderne, ce qui est intéressant pour nous, comme une main tendue vers le ciel à la place de l'autel, dans cette église contemporaine au milieu de la station. Et puis il y a en effet ce concert tout à fait exceptionnel, le 31 à midi, où on va monter sur le glacier. On va monter en téléphérique avec une escale à 2400 mètres avec l'équipe de Maxime Pascal, le balcon, des musiciens aventureux, aventuriers, et des grands musiciens aussi de musique d'aujourd'hui, de musique contemporaine. Et on va monter pour faire et expecto. Alors l'idée, c'est une idée que je reprends à Gaëtan Puot, qui était l'ancien directeur, fondateur, à qui on doit beaucoup, hein, qui a défendu avec force, avec passion, les musiques d'aujourd'hui, l'héritage de Messiaen aussi, ce qui a suivi ce compositeur, qui a donné, vous savez, tant d'esthétique. Ça, c'est incroyable. Autant Messiaen, du côté de sa foi, était dogmatique, autant il ne l'était pas, hein, dans son héritage. Qu'on pense à Boulez, à Stockhausen, à Lévinas, à Muraille, ça part vraiment dans tous les possibles. Et il avait dit que ce glacier l'avait inspiré pour Et expecto resurrectionem mortuorum, qui est une pièce très très forte, et qu'il aurait aimé l'avoir à cet endroit. Gaëtan Puot avait essayé déjà de réaliser ce concert. Il avait été pris par les intempéries, donc on s'y prend un petit peu autrement, parce que sur le temps de midi, il pleut jamais, voilà, dans la montagne.
Je me retourne vers Philippe Manoury. Quels sont vos liens avec Olivier Messiaen, ou en tout cas avec sa musique?
Olivier Messiaen était, quand je suis rentré au conservatoire, c'était la personne chez qui tout le monde allait. Vraiment, il y avait des gens qui venaient de beaucoup d'Asie, des États-Unis, et puis de France, de tous les pays. Je connaissais bien sa musique, j'avais analysé sa musique, j'avais écouté beaucoup de choses dans les concerts, je jouais même des pièces piano qu'il avait composées. Mais quand je suis rentré au conservatoire, bizarrement, je me suis dit, c'est pas là que je vais aller, parce que c'était là où tout le monde allait, justement. Donc, il y a une petite anecdote qui était assez drôle, c'est que Olivier Messiaen me connaissait puisque j'avais déjà participé au Festival de Royan, Claude Elfer avait déjà joué des pièces pour piano, donc je commençais à avoir un petit nom, disons. Et il était persuadé que j'allais me présenter chez lui, et j'étais à côté de lui dans la salle du conservatoire, rue de Madrid à l'époque, et où on affichait le nom des candidats qui étaient reçus, et lui ne regardait que sa classe, et il regardait les noms de ses élèves, il se tourne vers moi et dit « Je suis désolé, mon cher Manoury, vous n'avez pas été reçu. » Ben j'ai dit « Si, j'ai été reçu, mais pas chez vous. » Donc, mais c'était quelqu'un tout à fait unique. Et comme a dit Bruno de très justement, c'est quelqu'un qui révélait les autres à eux-mêmes. Quoi. Et il ne cherchait pas à imposer sa propre esthétique ou ses propres techniques aux autres. Il laissait vraiment les gens s'ouvrir.
Donc c'est une belle revanche cette année que vous soyez un des deux compositeurs invités principaux du Festival Messiaen au Pays de la Mège. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale. On va écouter un extrait de In Situ, Philippe Manoury, une pièce qui a été enregistrée par l'Ensemble Moderne et l'Orchestre Symphonique de la Radio de Baden-Baden et Fribourg sous la direction de François-Xavier Roth, un chef qui fait beaucoup pour la musique d'aujourd'hui et avec qui vous travaillez d'ailleurs très souvent.
Thank you.
un extrait de In Situ de Philippe Manoury par l'Ensemble Moderne et l'Orchestre Symphonique de la Radio de Baden-Baden et Fribourg, dirigé par François-Xavier Roth. Ça, c'est de la musique vitaminée, hein, Bruno Messina, pour démarrer la journée.
Ah oui, ça, c'est de la musique puissante, comme toujours avec Philippe Manoury. Et puis, voilà, cet orchestrateur extraordinaire, quelqu'un qui pense l'orchestre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait aussi de cet orchestre? Comment on le développe encore? Comment on peut en tirer encore toutes les possibilités? Moi, évidemment, j'adore ce travail-là. Et d'ailleurs, Philippe Manoury, qui est un acteur essentiel de la musique d'aujourd'hui, on va le décliner à la fois au Festival Messiaen. On est plus dans des petites formes. Il y a une dizaine d'œuvres de Philippe qui seront là, données au Festival Messiaen au Pays de la Mège. Et puis je compte faire un écho en grande forme orchestrale au Festival Berlioz avec Philippe l'année prochaine sans doute, pour décliner la totalité des facettes de son talent.
Alors attendez, parce que là il faut préciser pour les auditeurs, tout le monde ne sait pas que vous êtes aussi directeur du Festival Berlioz de la Côte-Saint-André qui a lieu à la fin du mois d'août. Oui. Et donc voilà, Philippe Manoury sera l'invité de festival, mais l'année prochaine.
Voilà, on est en écho, mais vous savez, il y a une filiation et il y a quelque chose que revendiquait Messiaen, hein, à travers le Dauphiné, à travers ses montagnes. Vous savez qu'il a grandi à Grenoble. Il est né à Avignon, mais c'est Grenoble qui a compté pour lui. Il y est revenu toute sa vie, et cette maison en Isère, au bord du lac, à Saint-Théoffrey, où il a composé la quasi-totalité de son œuvre. Messiaen Paris, c'était la Trinité, c'était l'orgue, c'était la classe de... Voilà, c'était toutes les classes d'écriture, de composition, d'analyse, enfin tout ce travail qu'il a pu faire à partir de ses années parisiennes. Il arrive très tôt au conservatoire, il a 11 ans, rendez-vous compte. Mais en fait, le souvenir de ses 6 ans, de cette petite enfance à Grenoble, va rester toute sa vie, et la quasi-totalité de son œuvre a été écrite dans les montagnes.
Alors moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la musique de Philippe Manoury, qui est avec nous toujours en ligne. Vous avez vu, Philippe, il vous fait plein de compliments, Bruno Messina, ce matin.
Oui.
Moi, je voudrais qu'on parle un petit peu d'une des caractéristiques de votre musique pour les auditeurs qui, éventuellement, ne la connaîtraient pas encore, ce qui est un peu compliqué, parce que quand on voit l'actualité que vous avez, c'est un peu difficile de passer à côté de la musique de Philippe Manoury. Une des caractéristiques, c'est l'utilisation de l'électronique, hein. Est-ce que c'était une manière pour vous de démultiplier la musique ou le sonore, je ne sais pas comment le dire?
Oui, bah c'était. Je suis vraiment un enfant du numérique, si vous voulez. Je n'ai pas plongé comme pas mal de mes collègues de ma génération dans ce qu'on appelait la musique électronique classique, enfin sur bande magnétique. J'en ai très peu fait, et je suis vraiment rentré dans le numérique. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'est de combler le fossé entre ces deux cultures, parce que quand j'étais étudiant dans les années fin des années 70. Les gens qui écrivaient pour orchestre n'écrivaient pas pour électronique, et vice-versa. Il y a une seule personne qui m'a donné un petit peu la voix, c'était Stockhausen, qui lui arrivait très bien à marier les deux. J'ai passé une grande partie de mon temps à profiter des atouts de l'électronique. Alors vous parlez de démultiplication, ça peut être ça, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est l'électronique amène, c'est l'informatique, je dirais d'ailleurs, qui amène beaucoup de concepts tout à fait nouveaux et intéressants. Mais j'ai essayé de faire en sorte que cette musique-là soit aussi interprétée, c'est-à-dire que la manière dont vont jouer les solistes transforme la musique électronique. C'est pas quelque chose de figé, mais c'est quelque chose qui est modulé en temps réel. Ouais. Voilà, donc de faire en sorte que ce qui est propre à la musique telle que nous les aimons, c'est-à-dire qu'elle passe par des interprètes, que ce soit possible aussi avec les outils technologiques.
Vous avez dit en temps réel, on retrouve bien la thématique du festival Messiaen au Pays de la Mèche cette année, de la nature du temps ou du temps de la nature. Alors on va donner une date qui va être importante quand même pour la création, c'est le 28 juillet, Bruno Messina. Alors là vous avez fait fort, hein. Le 28 juillet, 3 créations mondiales dans le même concert avec l'ensemble orchestral contemporain, dirigé par Bruno Mantovani.
Oui, absolument. Un grand plaisir de retrouver Bruno Mantovani avec nous dans la montagne. Il a été dans le passé l'invité du Festival Messiaen. Et alors il y a la rencontre, que je suscite entre Michel Fano et Philippe Manoury à travers des créations mondiales. Évidemment, une pièce parmi les 10 pièces qui seront données au Festival, une création mondiale de Philippe pour orchestre et piano. Et
mouvement, puis ça s'appelle,
absolument. Absolument. Et puis deux création mondiale, et là, qui vont vraiment interroger le temps avec Michel Fano. Michel Fano est un monsieur extraordinaire qui a été dans la première classe de Messiaen, qui a été au tout début de Messiaen professeur. Il faut remonter. Voilà, il faut traverser presque la moitié du XXe siècle. Et Michel Fano, qui est un monsieur absolument délicieux, qui travaille encore, qui pense la musique, qui est dans la multiplicité comme ça des envies, des désirs, écrit encore de la musique. Je l'ai invité donc pour une création mondiale qui va être créée cet été. Mais il y a une autre œuvre de l'époque de Messiaen. Hein, c'est une œuvre que Stockhausen lui avait empruntée, on va dire, comme ça, dans l'étude, comme entre étudiants, on peut se prêter des pièces pour les étudier, et qui avait été perdue et qui a été retrouvée il n'y a pas très longtemps. Et donc, pour interroger le temps du même compositeur vivant, on aura la chance d'avoir deux pièces à presque 70 ans d'intervalle de création mondiale.
Ça, c'est une belle façon d'entendre l'évolution aussi du style d'un compositeur au fil de sa carrière. Michel Fano, en plus, alors avec un parcours très atypique, hein, oui. Qui a écrit pour le cinéma, la télévision, pour Henri Salvador aussi, j'ai découvert ça.
Quelqu'un qui est magnifique de diversité, qui a pensé aussi avec Berg, qui a fait des travaux magnifiques. Hein, on s'en souvient sur Wozzeck, récemment sur Loulou. Voilà, c'est un artiste complet qui a pensé la partition sonore, qui a pensé aussi le son de manière holistique au cinéma, et je suis très très heureux qu'il soit là.
Philippe Manoury, Mouvement, c'est un concerto pour piano. Le concerto, c'est une forme un peu datée, très codifiée depuis l'époque baroque, avec un soliste tout puissant. Comment est-ce qu'on aborde l'écriture d'un concerto en 2021?
Non, c'est pas un concerto. C'est pas un concerto parce que c'est justement la place du soliste est un peu remise en question. C'est pas une forme classique puisqu'il y a 10 mouvements. Donc les concertos en général ça se limite à 3. Il y a 10 mouvements et à l'intérieur de ces mouvements il y a ce que j'appelle les interludes, c'est-à-dire des moments où le pianiste ou la pianiste, puisque c'est Ancuza Apredu, là c'est le pianiste roumaine pour laquelle j'ai écrit, la pianiste va dialoguer en musique de chambre. Il y aura des passages qui seront dirigés et des passages qui ne seront pas dirigés. C'est-à-dire que quand c'est dirigé, c'est plutôt vers le concerto, évidemment, parce qu'il y a un chef d'orchestre qui contrôle tout ça. Mais il y a beaucoup de passages dans lesquels la pianiste va dialoguer avec certains groupes instrumentaux, mais en tant que chambriste. Donc j'essaie de brouiller un peu les pistes, justement, du concerto, en faisant en sorte que, des fois, on se demande si c'est un concerto ou si c'est pas plutôt un trio, un quatuor ou un quintet.
Ça tombe bien, de la musique de chambre, vous en avez beaucoup écrit. On écoute à l'instant un extrait de Stringendo de Philippe Manoury. Petit extrait de Stringendo, le quatuor de Philippe Manoury, un quatuor qui est beaucoup plus long, hein, qui dure à peu près 15-16 minutes, interprété ici par le quatuor Arditi. Philippe Manoury, où est-ce que vous vous sentez le mieux? Est-ce que c'est justement dans la musique de chambre, dans les petites formes, ou alors dans les grandes formes symphoniques, les opéras?
Ah non, moi je suis plutôt dans les grandes formes. Ouais. Je me sens beaucoup plus à l'aise dans les grandes formes.
Vous êtes en grande forme.
Je sais pas si je suis en grande forme, mais je me sens plus à l'aise dans les grandes formes, justement parce que il y a la question du temps qui est posée de manière différente. C'est-à-dire que c'est un peu proustien, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on prévoit des éléments longtemps à l'avance, où on les rappelle, on fait intervenir la mémoire, la prémonition. Donc pour ça, il faut avoir vraiment faut avoir du temps. J'ai écrit des pièces de très courtes aussi, de petites formes. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus des instantanés. On est vraiment dans l'instant. Il faut dire le maximum en le moins de temps possible. Et donc ma prédilection va vers le grand orchestre et la grande forme. Ça, c'est sûr. Ouais.
J'ai lu aussi que vous étiez en train d'écrire un livre qui va s'appeler 8 leçons de musique. Ce seront vraiment des cours de musique, Philippe Manoury.
Alors, je suis pas sûr que je garde le titre, mais c'est un livre qui fait un peu qui est un peu la suite des cours que j'ai donnés au Collège de France quand on m'avait confié en 2017 la chaire de création artistique. Pour expliquer aux gens, surtout, et aux gens qui ne le savent peut-être pas, qu'est-ce que ça veut dire composer. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous voulez, je trouve que les gens ont l'image d'un compositeur, c'est plutôt un compositeur de musique pop. C'est ça qui est surtout qui vient très souvent à l'image quand on écoute même des gens très cultivés. Ils ne savent pas exactement comment fonctionne la composition et comment est-ce qu'on écrit, quel est le savoir qu'on doit récupérer pour pouvoir écrire. Voilà, c'est pour juste donner aux gens qui ne sont pas des professionnels une idée de la réalité de ce qu'est un compositeur aujourd'hui, avec les techniques d'aujourd'hui, avec l'esthétique d'aujourd'hui.
Leur ouvrir les portes de votre atelier d'une certaine manière, Philippe Manoury. Bruno Manoury. Vous voyez, ça y est, je vous mélange. Bruno Messina, on va rappeler quand même que le festival Messiaen au Pays de la Meije, c'est aussi et presque avant tout la musique de Messiaen. Juste un petit mot, je voudrais dire qu'il y aura aussi une soirée hommage le 18 juillet à notre camarade David Gis, compositeur, ancien camarade de France Musique, qui nous avait quitté malheureusement il y a un an, tout pile, presque pile, puisque c'était le 18 juillet 2020.
Voilà. L'hommage sera le 23 juillet en ouverture du festival Messiaen.
Oui. Voilà, ça, on en est très heureux. Et puis du Messiaen, bien sûr, j'ai noté notamment l'intégrale des 20 regards sur l'enfant Jésus de Messiaen par le prince de l'interprétation de Messiaen au piano, Roger Muraro. Est-ce que ce serait pas d'ailleurs, il m'a semblé entendre que c'était un de ses derniers concerts Messiaen. Il a pas dit qu'il voulait plus les jouer ensuite.
Écoutez, je ne sais pas. Je ne dirai rien de ça. Ça appartient à Roger. En tout cas, c'est vrai qu'on a la chance au festival Messiaen avec Roger Muraro, mais aussi avec Jean-François Esser, mais aussi avec Michel Béroff, d'avoir des gens qui l'ont connu, des gens qui ont travaillé avec Yvonne Loriot, des gens qui peuvent nous rapporter exactement qu'est-ce qu'était le quotidien de Messiaen. Roger Muraro allait dans la maison au bord du lac à Petit-Chez, à partager vraiment ces leçons, ce quotidien, ce Messiaen tout simple qui se levait avant le soleil pour entendre les oiseaux, pour les noter dans ses carnets. Et tout le festival revient en permanence à cet écho à la nature. Vous savez, il considérait que les oiseaux étaient les plus grands musiciens du monde, Olivier Messiaen, et tout est là pour nous le rappeler. Alors en effet, avoir Roger Muraro, c'est une chance, et ça raconte vraiment l'histoire de ce festival. Il était là au tout début, il était là dès la première édition.
Merci à tous les deux d'être venus nous voir ce matin sur France Musique. Merci Bruno Messina, merci Philippe Manoury. Vous retrouve au festival Messiaen au Pays de la Meije. Ça commence le 23 juillet et c'est jusqu'au 1er août. Allez donc en montagne, interrogez le temps. Et le temps long, pour une fois, hein, ça ferait du bien. On est tellement habitué à la brièveté des réseaux sociaux. Un peu de temps long, ça fait du bien de temps en temps. Merci à tous les deux. Merci. On vous souhaite un très bon festival. Le temps est au centre du festival Messiaen au Pays de la Mèche cette année. J'ai choisi Regard du temps, l'un des 20 regards sur l'enfant Jésus d'Olivier Messiaen. Et c'était au piano Roger Muraro. Et bien voilà, Musique Matin, c'est terminé pour aujourd'hui. Il est temps de découvrir le nom des deux gagnants du jour. Bravo à Mireille Terle d'Aix-en-Provence et à Laurent Malandy de Vous en Indre-et-Loire. Tous les deux, vous recevrez d'ici quelques jours un exemplaire du disque Chant d'amour, Chanson d'amour de Sabine Devielle et d'Alexandre Tarot. Alors la réponse à la question du jour, c'était l'église Notre-Dame de Lorette. En octobre 1871, Fauré devient organiste de chœur à l'église Saint-Sulpice. Et puis, dès 1874, il remplace régulièrement Saint-Saëns sur l'orgue de la Madeleine, avant de devenir maître de chapelle, maître du chœur donc de la Madeleine, quand Théodore Dubois devient lui-même titulaire du grand orgue Cavalier-Coll en 1877. Mais voilà, Gabriel Fauré n'a jamais joué les orgues de l'église Notre-Dame de Lorette. La journée ne fait que commencer sur France Musique. Restez à l'écoute dans quelques instants à 9h. Été classique avec une nouvelle voix cette semaine. Édouard Niqueux, bonjour.
Bonjour Clément.
Édouard qui est dans le studio juste à côté, est-ce que vous pouvez nous mettre l'eau à la bouche ?
Eh bien écoutez, nous aussi on va partir à la montagne avec du Strauss et un peu d'impressionnisme. Et puis on va voir plein de transcriptions donc du Bach, du Bach, du Bach. Et puis un peu de sang et des larmes avec Napoléon.
Oula, ça c'est un programme copieux ce matin dans l'été classique. Édouard Niqueux, on vous retrouve tout de suite, c'est à 9h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain matin, dès 7h30, pour un nouveau Musique Matin. J'aurai le plaisir de recevoir à 8h30 Reinout van Mechelen, superbe contre-ténor, avec qui nous parlerons entre autres du festival Valoir Baroque et du festival Musique et Mémoire. Un grand merci et plein de bisous masqués à toute l'équipe de Musique Matin, Marjolaine Portier-Kaltenbach, Florian Hainaut et Marion Guillemet qui m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée aujourd'hui par Taïsia Froidur, à la technique Fred Kiefer. Je vous souhaite une très très bonne journée à l'écoute de France Musique. Je vous redis à demain et je vous embrasse.
À réécouter sur francemusique.fr.